Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance.
Sur le langage, on a vu plusieurs problématiques, et dont une qui m'a assez intéressé, c'était est-ce que la pensée est due au langage ? Est-ce que sans langage, on pense ?
J'ai souvent foi en l'autorité des grands hommes, sur quelques points c'est à moi que j'en appelle. Tout grands qu'ils sont, ils nous ont légué moins de découvertes que de problèmes, et peut-être eussent-ils trouvé l'essentiel s'ils n'eussent cherché aussi l'inutile. Que de temps leur ont pris des chicanes de mots, des argumentations qui n'exercent qu'une vaine subtilité. Ce sont des nœuds que nous tressons, des équivoques de sens que nous enlaçons dans des paroles et qu'ensuite nous débrouillons. Avons-nous donc tant de loisirs ? Savons-nous déjà vivre ? Savons-nous mourir ? Toute la prévoyance de notre esprit doit tendre à n'être pas dupe des choses. Qu'importe les mots, les choses nous abusent, éclaircit les choses. Et l'équipe des Nouveaux Chemins débrouille les mots et éclaircissent les choses pour le bac philo. Marianne Chassor, Antoine Ravon, Colomba Grossi, Lucie Tardy, sans oublier évidemment Adèle Van Rett, avec cette semaine à la lecture des textes Olivier Martineau, à la réalisation Nicolas Berger et à la prise de son Jean-Pierre Zinc et Alec James.
En tant qu'être humain, on a la pensée et le langage très développés. Donc, c'est-à-dire qu'on peut avoir comme particularité une pensée qu'on peut garder pour nous, c'est-à-dire qu'on ne partage pas, mais qui pour nous touchera. Ou alors extérioriser la pensée, la faire partager aux gens. Et c'est ça qu'on a de plus, c'est-à-dire qu'on peut confronter nos pensées avec d'autres personnes.
Quelques mois de philosophie et vous n'avez que quelques noms en tête. Quelques notions tout au plus qui s'embrouillent et y font des nœuds, ou alors une envie folle de découvrir un peu plus le plaisir que procure la trouvaille d'une bonne problématique et d'éclaircir les choses, ou alors le plaisir plus malin d'écouter un professeur repasser l'épreuve du bac sous vos oreilles. Eh bien vous êtes au bon endroit, car nous avons posé nos micros au lycée Louis Pasteur d'Avignon, le temps d'une semaine spéciale bac blanc sur France Culture, le temps de quelques émissions où des professeurs sont là pour vous guider et vous donner la méthode pour réussir la fameuse épreuve du bac philo. Hier, Clémentine Voyle réfléchissait sur le sujet « La liberté est-elle dépendante de la sécurité ?» Demain, mercredi, nous nous pencherons sur la dissertation « Doit-on être sceptique parce que la vérité change avec le temps ?» en compagnie de Chloé Porte. Et jeudi, ce sera Stéphane Florent qui tirera le meilleur d'un extrait des Pensées pour moi-même de Marc Aurèle. Mais pour l'heure, c'est au tour de Brice Faucon, qui nous accueille ici même au lycée Louis Pasteur d'Avignon, où il est professeur, de s'attaquer à Bergson et à un extrait de son essai sur les données immédiates de la conscience. Bonjour à vous, Brice Faucon.
Bonjour.
Le moi touche au monde extérieur par sa surface. Et comme cette surface conserve l'empreinte des choses, il associera par contiguïté des termes qu'il aura perçus juxtaposés. C'est à des liaisons de ce genre, liaison de sensations tout à fait simple et pour ainsi dire impersonnelle, que la théorie associationniste convient. Mais, à mesure que l'on creuse au-dessous de cette surface, à mesure que le moi redevient lui-même, à mesure aussi, ces états de conscience cessent de se juxtaposer pour se pénétrer, se fondre ensemble et se teindre chacun de la coloration de tous les autres. Ainsi, chacun de nous a sa manière d'aimer et de haïr, et cet amour, cette haine, reflète sa personnalité tout entière. Cependant, le langage désigne ces états par les mêmes mots chez tous les hommes. Aussi n'a-t-il pu fixer que l'aspect objectif et impersonnel de l'amour, de la haine et des mille sentiments qui agitent l'âme. Nous jugeons du talent d'un romancier à la puissance avec laquelle il tire du domaine public, où le langage les avait fait descendre, des sentiments et des idées auxquels il essaie de rendre, par une multiplicité de détails qui se juxtaposent, leur primitive et vivante individualité. Mais, De même qu'on pourra intercaler indéfiniment des points entre deux positions d'un mobile sans jamais combler l'espace parcouru, ainsi, par cela seul que nous parlons, par cela seul que nous associons des idées les unes aux autres, et que ces idées se juxtaposent au lieu de se pénétrer, nous échouons à traduire entièrement ce que notre âme ressent. La pensée demeure incommensurable avec le langage.
Brice Faucon, voilà le texte, l'extrait de l'essai sur les données immédiates de la conscience de Bergson. C'est un texte qui permet de traiter la notion du langage. Néanmoins, ce terme n'apparaît, on va dire, que dans la deuxième grande partie de ce texte. Comment un élève de terminale, le jour du bac, peut-il tout de suite faire le lien avec le langage et ne pas passer à côté et traiter, par exemple, le moi, qui, pour le coup, est une notion qui apparaît dès la première phrase?
Alors, je dirais que la première chose à faire, c'est de lire le texte entièrement, ne pas se jeter dessus sous l'effet d'une excitation, sous l'effet de l'adrénaline qui est nécessairement liée à l'épreuve. Donc, lire le texte une fois, deux fois. Je dis souvent aux élèves, ne commencez pas à écrire quoi que ce soit avant d'avoir lu plusieurs fois le texte, et en particulier d'avoir identifier les notions qui sont présentes dans le texte et les notions qui jouent un rôle dans le texte. Alors effectivement, le moi est présent. Alors c'est intéressant que le texte commence par le moi, puisqu'effectivement on retrouve vraiment la dimension de la personne, de l'intériorité, etc. Et c'est ça qui est le cœur, si on peut dire, le cœur battant de la pensée. Donc effectivement, ça joue un rôle. Mais le texte traite des rapports entre la pensée et le langage, comme le laisse bien voir la phrase de conclusion. Donc il va falloir identifier ces notions et interroger les rapports qu'elles entretiennent les unes avec les autres.
C'est un texte de Bergson, c'est indiqué sur la copie du bac. Néanmoins, la connaissance de l'auteur n'est pas requise. C'est d'ailleurs, pour l'explication de texte, c'est d'ailleurs une des consignes qui est indiquée sur la feuille du bac. Alors comment, si on ne connaît pas Bergson, comment appréhender ce texte et ses différentes notions ?
Oui, alors c'est effectivement, on est face à une situation un peu paradoxale. Hein. Surtout quand on aime Bergson, on aurait envie de dire il faudrait que les élèves puissent exploiter tout le potentiel que ce texte recèle et tout ce par quoi il ouvre sur l'ensemble de l'œuvre de Bergson. Et effectivement, c'est pas ce qu'on doit faire ici. Je pense que l'essentiel, c'est de questionner le texte, de n'éluder aucune question, aucune difficulté. C'est ce que je dis très souvent aux élèves. Les difficultés constituent vos opportunités d'expliquer le texte. Donc, allez vers les difficultés, allez vers les questions, questionnez le texte. Et puis, dans les situations où vous pourriez vous trouver en difficulté par rapport à l'interprétation, eh bien, procédez par hypothèse. Je ne parviens pas à déterminer de façon certaine quel est le sens de cette phrase ou de ce petit paragraphe. Donc, je vais procéder par hypothèse. Se peut-il que l'auteur souhaite exprimer ceci ? Et qu'est-ce qui me permet, par rapport au contexte du texte dans son ensemble, de discerner, oui ou non, cette hypothèse est recevable ou pas, et procéder de cette façon-là. Sachant que l'effort d'explication, l'effort d'analyse, même si éventuellement on aboutit, le cas échéant, à un petit contresens, l'effort d'analyse sera apprécié pour ce qu'il est, puisque c'est véritablement de cette façon-là qu'on explique le texte. Donc, à la limite, un étudiant ou un lycéen qui connaît très bien cet auteur, parce que bon, le cas échéant, on l'aurait vu en cours, on aurait étudié l'œuvre, etc., mais qui n'aurait pas cet effort d'analyse, de décortiquer le texte, n'aurait pas de raison d'être mieux noté que un qui connaît pas le texte, qui va pas forcément déceler des enjeux relatifs à l'œuvre, mais qui, par contre, va procéder véritablement à une analyse pugnace, d'accord, avec tous les moyens dont il dispose.
L'élève qui connaît bien Bergson, le risque même, c'est qu'il passe à côté du texte et qu'il dise en une copie tout ce qu'il sait sur Bergson, effectivement, sans se confronter aux problèmes que le texte pose. Et un des problèmes que ce texte pose, d'ailleurs, c'est peut-être, comme on le disait au début, que le langage n'apparaît qu'après. Quelles sont les autres difficultés auxquelles a affaire l'élève face à ce texte ?
Alors, par rapport à ce que vous dites, oui, c'est très juste. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que les classiques sont les plus périlleux à ce niveau-là. Hein. Je pense en particulier à Descartes. Hein. On voit ça souvent, des élèves qui tombent sur un texte de Descartes et qui se jettent sur l'opportunité de traiter le cogito. Donc, on aboutit souvent à des hors-jeux. Il me semble voir qu'une seule véritable difficulté dans ce texte, c'est la présence de l'idée d'associationnisme, pour laquelle Bergson donne relativement peu d'éléments pour l'expliquer ici, étant donné le niveau de connaissance d'un élève de terminale. Pour cette raison, je ne suis pas certain que ce texte puisse être donné tel qu'il est au bac. En tout cas, il me semble qu'il faudrait au moins une note de bas de page pour permettre à l'élève d'appréhender ce dont il est question avec l'associationnisme. Par contre, tout le reste, il me semble que l'effort d'analyse, le travail pour décortiquer ce qui est présent dans le texte, permet de tout expliquer. D'autant si l'élève a un ressenti personnel des questions relatives au langage. D'accord, je pense en particulier à des élèves, par exemple, de la série L, des littéraires, qui ressentent la poésie, qui ressentent les textes, etc., etc. Je pense que des élèves avec une sensibilité de cet ordre-là, a priori, sont très susceptibles d'être touchés par ce texte-là, parce que il dit des choses qui va certainement les rencontrer dans leur vécu du langage.
Car effectivement, dans la deuxième partie, Bergson parle du talent d'un romancier. On le verra, on étudiera cette partie un tout petit peu après. Déjà, il faut le dire, quand on s'attaque à une explication de texte, il faut déjà découper le texte en plusieurs mouvements. Comment vous découperiez ce texte ?
Oui, excusez-moi, j'ai oublié de le mentionner. Alors, effectivement, à la lecture initiale, je disais, il faut repérer les notions du texte. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est découper le texte, c'est-à-dire en repérer le mouvement. D'accord ? Comment est-ce que le texte est constitué ? Est-ce que l'auteur commence par une hypothèse qu'ensuite il va défausser ? Ou est-ce qu'au contraire, il commence par un exemple qu'il va exploiter, à la suite de quoi il va formuler une hypothèse, etc. etc. La configuration du texte, c'est très variable. Les textes peuvent présenter toutes sortes de formes. Donc ici, on a une introduction, donc... sur l'associationnisme, enfin, disons la première partie évoque cette idée de l'associationnisme, c'est-à-dire une conception de l'esprit selon laquelle l'esprit est en quelque sorte le résultat d'une composition. C'est-à-dire de la même manière que nous sommes face au monde dans son ouverture, dans sa spatialité, hein, c'est un thème qui est cher à Bergson, c'est-à-dire que nous sommes face à des choses qui sont séparées les unes des autres, qui sont contiguës comme il est dit dans le texte, eh bien, notre compréhension du monde serait elle-même composée de cette façon-là, et notre esprit serait aussi le fait d'une composition. C'est ça l'idée. En tout cas, en ce qui concerne le langage, c'est de cette façon-là que l'idée de l'associationnisme, quelle que soit sa valeur de théorie de l'esprit par ailleurs, intervient ici. Donc ça, c'est le premier moment du texte. Deuxième moment du texte, c'est quand Bergson nous démontre tout ce qu'il y a de personnel, d'éminemment personnel, dans la manière dont nous ressentons le monde, et donc, conséquemment, dans la manière dont nous vivons le langage. D'accord ? Les mots que nous les employons d'une manière qui nous est tout à fait personnelle et qui est liée à notre sensibilité et qui est liée à notre histoire. Donc, je vais prendre les exemples du texte. Quand je dis « j'aime » ou « je t'aime », les mots n'ont pas exactement la même signification, la même portée. Ils ne vibrent pas de la même manière selon qui je suis, selon ce que j'ai vécu, selon la personne à qui je m'adresse, etc., etc. Il y a à chaque fois quelque chose qui est absolument unique. D'accord ? Et cela, le langage ne parvient pas à en rendre compte d'une manière pleine et fidèle. Et pour Bergson, ce fait nous met face à la dimension éminemment personnelle du vécu. Donc, quelque chose, si vous voulez, qui échappe à la lecture associationniste de l'esprit et du langage, c'est-à-dire une lecture par composition, où l'esprit serait la résultante d'une composition, si vous voulez. Il y a au contraire une dimension centrale, et à ce titre, c'est pas tout à fait un hasard que le texte commence par l'idée du moi. Troisième moment du texte, c'est l'exemple du romancier, d'accord, qui justement, lui, parvient à fournir une exception par rapport au registre ordinaire du langage. Le langage, ordinairement, c'est le commun, c'est la dimension commune, d'où sa pauvreté, ses insuffisances, etc., etc. Le langage, c'est ce qui s'échange. Dans le cas du romancier talentueux, on a un emploi du langage qui est en quelque sorte au-delà, on pourrait dire qui transcende l'usage ordinaire des mots, qui transcende l'usage ordinaire du langage. Donc le romancier fait figure d'exception. C'est la raison pour laquelle il donne à ressentir justement ce qui est tellement personnel dans le vécu, dans la sensibilité, parce qu'il parvient à l'exprimer. Et je dirais, il parvient même à rendre personnel ce qui, normalement, est impersonnel, c'est-à-dire les mots eux-mêmes. D'accord. Donc ça, c'est le troisième moment du texte. Et puis, les trois ou quatre dernières lignes du texte, c'est un bilan avec cette conclusion que la pensée est incommensurable au langage. C'est une formule assez extraordinaire. C'est incommensurable au langage, c'est-à-dire quoi qu'il advienne, y compris en un sens, quand il s'agit du romancier, hein, il demeure quelque chose d'irréductible dans la pensée qui ne peut pas être pleinement formulé. Tout ne peut pas être communiqué. Il reste toujours un résidu d'incommunicable de ce que je suis, de ce que je sens, de ce que j'éprouve, quand bien même j'aurai tout le talent du monde à l'exprimer. D'accord ? Donc voilà, ça c'est le quatrième moment.
Donc une fois que l'étudiant a pu identifier quelques difficultés, quelques notions clés, le moi, le langage, la théorie associationniste, les différents moments du texte, leur tourne, mais néanmoins il faut bien qu'il problématise dans son introduction le problème que pose ce texte. Quelle serait votre problématique, Brice Faucon ?
Alors, je ne parlerai pas véritablement de problématique, je m'attacherai à faire ressentir les enjeux du texte à ce niveau-là. Donc effectivement, les enjeux du texte, je les situe, bon, ils sont à deux niveaux. Ce qu'on peut raisonnablement attendre d'un élève, c'est ce qui apparaît dans la conclusion, c'est-à-dire cette dimension de la personne qui échappe à l'expression, avec la portée sociale et politique à tout ça. Parce que évidemment, si je ne peux pas tout dire de ce que je suis, de ce que j'éprouve, et même pourquoi pas de ce que je pense, je suis pour ainsi dire en défaut par rapport à l'existence collective, ou alors, dit autrement, l'existence collective ou commune, avec tout ce que ce terme peut avoir de négatif, l'existence commune est en défaut par rapport à la richesse qui est intrinsèque à la personne. D'accord ? D'autant que la personne a du mal à se dire. L'exemple le plus frappant, le plus extraordinaire, je sais, c'est la personne autiste qui est privée de langage et qui pourtant vit les choses sur une intensité absolument hors norme. D'accord, et donc nous ne pourrons jamais appréhender, peut-être même soupçonner, la richesse intérieure.
Cerveau, vérifiez fonctionnement moteur. Jambes, démangeaison.
Grattez la jambe gauche.
Mission accomplie, jambe grattée.
Annonce grosse blague sur la 28.
Préparez réponse à blague un peu lourde.
Ça y est, réponse blague 10,2.
Sourire, s'il vous plaît.
C'est fait, souris.
Notre invitée est vraiment ravissante. Vous devriez jeter un coup d'œil. Tête appelle les yeux, tête appelle les yeux, à vous.
Yeux à tête, à vous.
Montrez-nous notre invitée. Vérification de routine, vite.
J'en vois la tête seulement.
Non, tout. Regardez.
Hey, ça aurait été dommage de louper ça.
Et comment ? Appelle oreille. Envoyez-nous la voix, s'il vous plaît.
On va chez moi ou chez vous ? Dans le fond, ça n'a pas tellement d'importance. Vous avez peur ? Qu'est-ce qu'il y a ?
Nom de Dieu, mais qui a envoyé cette expression pensant? Qui a appuyé sur peur?
Personne. Il doit y avoir un court-circuit.
On avait besoin de ça.
Oh, mon Dieu, Sidney, quel empressement. Vous voulez qu'on fasse ça dans le parking, tout de suite?
Vite, dites à la voix de donner une réponse affirmative.
Tout système en alerte, on va essayer de baiser dans la tire.
Allez-y, sortez la langue. Voilà le baiser. Attention!
Mais à mesure que l'on creuse au-dessous de cette surface, à mesure que le moi redevient lui-même, à mesure aussi, ces états de conscience cessent de se juxtaposer pour se pénétrer, se fondre ensemble et se teindre chacun de la coloration de tous les autres. Ainsi, chacun de nous a sa manière d'aimer et de haïr, et cet amour, cette haine, reflète sa personnalité tout entière. Cependant, le langage désigne ces états par les mêmes mots chez tous les hommes. Aussi n'a-t-il pu fixer que l'aspect objectif et impersonnel de l'amour, de la haine et des mille sentiments qui agitent l'âme.
Brice Faucon, on vient d'entendre le deuxième temps du texte de Bergson, de cet extrait que vous expliquez, et on entend associé à l'extrait du film de Woody Allen « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe sans jamais oser le demander », que la théorie de Bergson, en tout cas ce qui apparaît ici dans cette phrase, à savoir que le moi est une unité dont les états de conscience s'interpénètrent, est à l'inverse des théories classiques sur le corps ou sur le moi qui en font des états en fait de conscience qui se juxtaposent.
Alors, des théories classiques, je dirais pas ça, mais en tout cas...
En tout cas, la théorie associationniste dont voilà. Il parle au début du texte.
Absolument. Des théories qui sont apparues, en particulier au 19e siècle, on a essayé d'expliquer l'âme sur le modèle de la matière, l'âme ou l'esprit, si vous voulez, la pensée, comme découlant du corps, et donc pouvant être expliqué au moyen de schèmes ou de paradigmes qui sont ceux qu'on applique ordinairement à la matière. Donc Bergson aurait dit par rapport à ça qu'on a, spatialisé l'esprit. Et pour lui, justement, c'est une tentative qui échoue. Et donc l'extrait de Woody Allen est bien choisi ici parce que justement l'effet comique, je pense que Bergson sauterait sur l'occasion s'il avait la possibilité de le commenter. L'effet comique est produit justement par la décomposition, c'est-à-dire par le caractère mécanique. On a ici des sous-âmes en quelque sorte, des extrapolations du moi qui sont décomposées comme si différentes parties pouvaient agir indépendamment, c'est-à-dire les bras, la langue, la tête, etc., etc. Et donc, l'effet comique est produit par cette distinction qui n'a pas lieu d'être, cette division qui alourdit le mécanisme jusqu'à le rendre un peu grotesque. Et c'est cette mécanique-là, justement, et là on est exactement dans les termes de Bergson, c'est cette mécanique-là qui provoque l'effet comique.
Et donc, le terme de langage apparaît enfin, et effectivement, le langage semble se situer du côté, et c'est ça un des enjeux du texte, du côté de ces théories associationnistes, de ces théories qui spatialisent et qui, finalement, ne rendent pas compte de l'unité du moi, selon Bergson.
Alors, le langage est susceptible de ce type de lecture, effectivement, dans la mesure, je dirais, dans la mesure où on ne le vit pas. C'est-à-dire, si l'on a une compréhension du langage qui est, disons, de type utilitaire, si on a une compréhension du langage comme étant simplement un moyen d'échange, hein, y compris avec tout ce que ça peut avoir de porteur, on demeure en quelque sorte extérieur à la vivante intériorité de tout ce qui se joue dans le langage, qui est exactement à l'opposé de ce que vit l'écrivain de talent dont il est question par la suite, qui lui vit le langage de l'intérieur. Donc, si on en reste là, effectivement, le langage, eh bien, ou disons, prenons un exemple, hein, les mots, puisque chaque mot correspond à un sens, puisque chaque sens peut nous apparaître comme étant défini, délimité, séparé des autres, avec éventuellement une certaine contiguïté avec les autres termes présents dans la langue, eh bien, on peut avoir une lecture qui soit mécanique ou qui soit spatiale. C'est-à-dire, chaque mot correspond à un sens, chaque sens sert à exprimer quelque chose, et le lien à la réalité extérieure est direct, c'est-à-dire que un fait ou un objet correspond de manière exacte et linéaire à un mot dont nous disposons dans la langue, et les choses s'arrêtent là. Pour Bergson, il n'en a pas ainsi, puisque, comme j'ai expliqué tout à l'heure, notre langage est vécu. C'est-à-dire, le langage est vécu. Le mot bleu, l'appellation, la désignation d'une couleur, ou la mer, ou le vent, ou même les choses élémentaires en particulier, je dirais, ou tout ce qui désigne les sentiments, sont en fait liés pour chacun de nous, de manière très très personnelle, à notre vécu. Donc, le langage est, en tout premier lieu, vivant. Donc du coup, il ne se laisse pas exprimer, il ne se laisse pas expliquer, il ne se laisse pas résumer à cette approche mécanique.
On entend que vous suivez bien le texte de Bergson, que vous l'explicitez bien. L'écueil dans lequel peut tomber l'étudiant, c'est de paraphraser Bergson, d'être finalement trop d'accord avec lui. Or, il faut qu'il interroge le texte, qu'il exploite peut-être, qu'il peut peut-être tenter de faire des objections à ce texte. Et une des objections qu'on peut lui faire, c'est au moment où Bergson dit « Le langage aussi n'a-t-il pu fixer que l'aspect objectif et impersonnel de l'amour, de la haine et des mille sentiments qui agitent l'âme ?» Finalement, l'objection qu'on peut faire à Bergson, c'est que si le langage échoue à rendre compte de la singularité de chacun, c'est aussi pour permettre que tout le monde puisse vivre ensemble, et tant mieux si le langage est impersonnel, sinon on ne se comprendrait plus.
Oui, absolument. Alors, il ne s'agit pas de renoncer au langage. Effectivement, il ne s'agit pas de se vouer à une intériorité que l'on va décider de conserver muette, dans une sorte d'autosuffisance, etc., etc. Il ne s'agit pas du tout de ça. Il ne s'agit pas de renoncer à communiquer. Au contraire, je dirais, Bergson est de ceux qui vont tâcher ou qui ont tâché d'amener le langage aussi loin qu'il était possible. Et c'est la raison pour laquelle il évoque l'écrivain de talent. L'écrivain de talent, c'est celui qui va justement parvenir à faire des miracles avec le langage. C'est celui qui va parvenir à faire sortir le moi, hein, pour prendre une image, qui va parvenir à placer de son intériorité, à faire vivre de son intériorité dans cette extériorité que constituent, dans les cas ordinaires, les mots. Donc il n'y a pas de renoncement à cela. Par contre, une objection est bienvenue. Une objection est bienvenue. Faire une objection sur le texte du type de celle que vous avez évoquée, et puis voir en quoi elle n'est pas suffisante, c'est une démarche qui vaut mieux que simplement adhérer au texte et n'avoir aucune distance et n'essayer aucune critique à l'égard du texte.
No letter.
Not today.
My love. It's this love.
Est-ce cela l'amour? C'est douloureux en mourir.
Ma bien-aimée. Je suis en cet instant à la fenêtre d'un charmant cottage donnant sur un beau paysage vallonné, avec une vue sur la mer. Demandez-vous, mon amour, si vous n'avez pas été cruel de m'avoir ainsi envoûté et privé de ma liberté. Quant à moi, je ne sais comment exprimer ma dévotion à une si belle créature. Il me faut un mot plus éclatant qu'éclat, un mot plus beau que beauté. Je rêve que nous sommes des papillons, n'ayant à vivre que 3 jours d'été. Avec vous, ces 3 jours seraient plus plaisants que 50 années d'une vie ordinaire.
Écoutez, je vous aime d'autant plus que je sais être aimée pour ce que je suis. J'ai connu des femmes qui, je crois, accepteraient volontiers d'épouser un poème ou de se perdre pour un roman. Maman, ne soyez pas fâchée. Quand je ne reçois pas de nouvelles de lui, je crois mourir. Comme si mes poumons, soudain, se vidaient de leur air. Et je perds goût à la vie. Mais dès que je reçois une nouvelle lettre, je sais que notre monde est réel. Et je reprends alors confiance.
Il est 6 heures au clocher de l'église. Dans le square, les fleurs poétisent. Une fille va sortir de la mairie. Comme chaque soir, je l'attends, elle me sourit. Il faudrait que je lui parle à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule. Je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile d'une rencontre. D'une rencontre.
Vous êtes sur France Culture, c'est la semaine spéciale Bac Blanc et vous écoutez le deuxième temps de notre série d'émissions des Nouveaux Chemins consacrée à la préparation du Bac Philo où nous avons la chance d'être accueillis par le lycée Pasteur à Avignon. Et aujourd'hui, nous nous attaquons à l'explication d'un extrait de l'essai sur les données immédiates de la conscience de Bergson en compagnie du professeur Brice Faucon.
Il n'y a plus d'horloge, plus de clocher. Dans le square, les arbres sont couchés. Je reviens par le train de nuit. Sur le quai, je la vois qui me sourit. Il faudra bien qu'elle
Brice Faucon, on vient d'entendre un extrait du film de John Campion sorti en 2009, c'était Bright Star, dans lequel John Keats, donc le jeune poète anglais, écrit une lettre d'amour à sa voisine Fanny Brawne et il dit qu'il ne parvient pas à trouver les mots pour lui dire ce qu'il ressent pour elle. Il lui dit « j'aimerais trouver un mot plus beau que beauté » et on retrouve exactement ce que dit Bergson dans le troisième temps de son texte où effectivement, là, même le talent du romancier entier peut peut-être aussi échouer à rendre compte de toute la singularité des sentiments, mais c'est néanmoins celui, le seul, qui tente de le faire.
Le seul peut-être pas, mais...
En tout cas, dans le texte de Bergson.
Oui. Disons, il a cette capacité. Il a la capacité d'évoquer.
Bergson parle de puissance, effectivement.
Oui. Alors, trouver un mot plus beau que beauté, on en trouverait peut-être. C'est certain que c'est pas forcément en nommant la beauté qu'on va la donner à éprouver. Et justement, c'est en cela que tient la capacité ou l'art, la puissance de l'écrivain, c'est qu'il ne va pas nécessairement désigner de manière explicite ce qu'il évoque. Il va peut-être en dessiner les contours, il va l'évoquer, et c'est cette puissance d'évocation qui constitue toute sa force. D'accord, c'est pas le... Justement, on sort de cette linéarité, la linéarité que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire la correspondance exacte du mot et de la chose qui convenait à l'appréhension associationniste du langage. Ici, elle n'a plus mise. Il ne s'agit pas de désigner les choses explicitement, ce que nous faisons davantage en philosophie, par exemple, mais de les évoquer, de leur faire vivre, d'en rendre le mouvement naturel, pourrait-on dire, si on se place dans une lecture bergsonienne aboutie, disons, et explicite. Le langage, le talent de l'écrivain consiste aussi à rendre le mouvement de la réalité. Là où nommer les choses de manière explicite et décomposée revient à les spatialiser, ce qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire à isoler chaque chose en elle-même et à la séparer des autres. Écrire comme l'écrivain de talent, parvenir à s'exprimer comme l'écrivain de talent, c'est parvenir à restituer dans les mots, malgré leur unité de sens, la globalité du mouvement des choses qu'il s'agit d'appréhender et de faire appréhender par l'écriture.
C'est aussi une manière pour le poète d'exprimer un moi intérieur et non plus un moi de surface. On revient à la question du moi au départ. Comment l'étudiant peut justement peut-être à ce moment-là récapituler aussi, dire où il en est dans son plan, dire où il en est dans son développement et comment finalement cette troisième partie, avec cet exemple sur lequel il peut vraiment insister du talent du romancier, va répondre aussi à une question qui s'était posée au départ et faire avancer sa réflexion.
Oui, alors l'intériorité ici, on peut la situer à deux niveaux. On peut la situer effectivement au niveau de la thèse d'un moi vivant qui est présente dans ce texte. Le moi, c'est quelque chose qui est vivant, qui est premier, qui n'est pas le résultat d'une composition. Donc effectivement, on a le moi qui intervient à ce niveau-là, dans cette dimension-là dans le texte. Et puis il y a aussi le moi intérieur, hein, comme vous dites, par opposition à cette extériorité en particulier sociale, puisque le langage va se trouver dans le champ social. Donc, étant attentif aux termes du texte, l'étudiant ou le lycéen doit effectivement repérer ces termes qui sont centraux, hein, la dimension objective et impersonnelle du langage, qui va s'opposer à tout ce qu'il y a de personnel et donc de subjectif. On devrait dire davantage que subjectif, de vécu, parce que subjectif prête un glissement de sens, de vécu, et donc de tout à fait central. Et c'est bien à ce niveau-là que se trouve le moi.
Une autre objection qu'on pourrait faire à Bergson à ce moment-là, tout à l'heure, c'était plutôt sur justement la compatibilité des mois, la possibilité de communication entre des mois, d'où l'intérêt d'avoir des mois sociaux, on va dire des mois extérieurs, c'est le fait qu'ils puissent habiter ensemble, vivre ensemble, communiquer ensemble. L'autre objection qu'on pourrait faire aussi, c'est la manière dont l'individu, s'il est replié sur lui-même, ne parvient même pas à énoncer clairement ce qu'il a en lui. Est-ce que ce moi dont parle Bergson n'est-il pas si mystérieux que ça qu'il ne puisse être, ne pas être dit finalement? Est-ce que, comment dire, l'objection qu'on pourrait faire à Bergson ou que l'étudiant pourrait faire à Bergson, c'est de dire aussi, mais finalement si on n'arrive pas à en parler, est-ce qu'il existe vraiment ce moi? Bergson postule qu'il y a un moi qui se présente de cette manière, mais finalement qu'en sait-il? Ces mots à lui-même échouent bien à le dire.
Disons, je pense que il me semble que l'objection ne tient pas dans la mesure où on tient compte de la sensibilité. Qu'est-ce qui fait la vie du moi? Essentiellement, c'est une sensibilité. Effectivement, bon, ce que vous évoquez, ça rejoint par exemple dans notre actualité les théories cybernétiques de l'esprit qui voudraient, ben, comme l'associationnisme il y a un siècle, qui voudraient faire découler l'esprit d'un ensemble d'opérations, disons. D'accord. Donc, à partir de là, on pourrait avoir des machines pour lesquelles on suppose une conscience. Il est même question de donner des droits aux robots, par exemple. Par rapport à ça, s'il n'y a pas de sensibilité, comment peut-il y avoir un moi? D'accord. Alors, et justement, ici, chez Bergson, la sensibilité est au cœur du moi. Et on le voit bien ici au langage. La dimension impersonnelle du langage, c'est le langage qui est monnaie d'échange, c'est le langage qui désigne les choses, c'est le langage qui est linéaire. Or, précisément, nous ne sommes pas dans une linéarité de ce type. On le voit bien dans le texte, dans la mesure où Bergson nous dit que... attendez que je retrouve le passage. Dans la mesure où on creuse en dessous de cette surface, donc le contact que nous avons avec le monde extérieur, d'accord, à partir du moment où le moi revient en lui-même, à mesure aussi, ces états de conscience cessent de se juxtaposer pour se pénétrer, se fondre ensemble. C'est-à-dire, il y a un tout. Il y a un tout de ce que je suis qui est manifeste à chacun de mes états de conscience. C'est la raison pour laquelle amour ou vent ou mer ou neige ou Noël ou regret, etc. n'a pas le même sens pour moi et pour vous, ne vibre pas de la même manière pour les uns et pour les autres. C'est parce que la totalité de notre vécu est présente et affleure, d'accord, à un état de conscience donné. Donc le moi est toujours présent à chacun des états de conscience. La totalité du vécu, de ce que je suis, de ce que j'ai été, est présente à ce que je suis, à ce que je nomme, etc., etc. Donc le moi, si vous voulez, on peut le formuler de cette façon-là, le moi, c'est toute cette histoire. Bergson parlerait de mémoire, il y a chez Bergson une théorie de la mémoire totale. Nous n'oublions rien, tout demeure là, ou plutôt nous oublions, mais tout demeure. D'accord, quand bien même les choses ne nous reviennent pas à l'esprit, nous conservons enregistré en nous, de façon certaine, la totalité de ce que nous avons vécu. Donc cette totalité est présente en nous. On peut faire reposer le moi, si vous voulez, sur cette totalité, ou en tout cas, dans une certaine mesure, ce moi est rendu manifeste par cette totalité qui colore de son fond émotionnel chacun de nos vécus de conscience et donc la manière dont nous apprenons le langage. Pourquoi tel mot va m'émouvoir? Pourquoi il y a une force d'évocation dans les mots? Eh bien, précisément, cela repose sur ce vécu aussi.
Si l'on se remet dans la peau de l'étudiant face à ce texte qui ne connaîtrait pas Bergson et n'aurait aucune idée de ce qu'il dit de la mémoire, l'idée aussi, est-ce que d'un point de vue méthodologique, est-ce que c'est vraiment pertinent pour lui, dans sa copie, de se mesurer à Bergson dans la mesure où, par exemple, de retourner Bergson contre lui-même en lui disant « Mais ce que Bergson dit du langage, finalement, je ne le comprends pas non plus parce que je pars du principe que moi, je lis dans ce mot autre chose que ce qu'il entend. Finalement, je pousse Bergson dans ses retranchements. » Est-ce qu'il aurait raison de faire ça, ou est-ce que c'est même peut-être l'idée de l'explication de texte, de désacraliser un auteur, de lui poser des questions, de le pousser dans ses retranchements, ou plutôt il faut être dans une sorte d'explicitation qui nous contient un petit peu et finalement plus qui avec ce risque de tomber dans la paraphrase.
Je dirais si l'étudiant s'aventure dans une démarche critique aussi acerbe, il faut vraiment qu'il soit très assuré et qu'il soit très pertinent dans la façon dont il formule tout ça. D'autant que j'aurais tendance à dire, si je veux me montrer malveillant en tant que correcteur, j'aurais tendance à dire, s'il y a un doute sérieux au niveau du langage à ce niveau-là, la seule chose qui puisse justifier qu'on prenne ce sujet-là et non pas un autre qui ne soit pas un sujet sur le langage, justement, c'est d'y croire. Parce qu'il faut y croire un minimum, même pour prendre un sujet sur le langage. La seule chose qui pourrait donc motiver ce choix, c'est d'être à ce point sûr de soi et de sa thèse, qu'on décide d'aller casser justement la croyance ou des croyances ordinaires sur les pouvoirs du langage, les pouvoirs des mots, etc. etc. Ça demande, me semble-t-il, un aplomb et une confiance en ses capacités intellectuelles que, sans aucun mépris, hein, je serais étonné de voir justifié chez un penseur de 18 ans. D'accord. Hormis avoir affaire à quelqu'un d'absolument exceptionnel, mais moi personnellement, je ne m'y serais pas aventuré étant lycéen et je ne m'y aventurerais pas aujourd'hui non plus.
Alors, ce comité de 9 langues,
il fait des heures supplémentaires. Le plus gros déchet, ce sont les adjectifs. Le plus gros problème, calquer la langue au rythme du progrès scientifique. Quelle belle chose que la destruction des mots. Tu as vu la 10e édition du dictionnaire Smith? Épaisse comme ça. La 11e sera encore moins épaisse.
Oui, au fond, la révolution sera vraiment terminée quand la langue sera parfaite.
Le secret, passer du traduire aux pensées directes, et de là en réponse automatique. Pas besoin d'autodiscipline. La langue venant de là, pas de là.
Excusez-moi de vous déranger.
Mais ce que vous dites, c'est qu'on sera débarrassé des derniers vestiges du goldsteinisme quand la langue sera mise au net. Je partage entièrement votre point de vue. Absolument.
C'est stimulant de penser que vers 2050, il n'y aura plus une seule personne qui pourra avoir ce genre de conversation.
Excepté les prolétaires.
Les prolétaires sont des bêtes, ils ne comptent pas.
300 000 camions. Double plus bon, ça. Vous savez, pour moi, dans ce ragoût, il n'y a pas un seul morceau de viande. On dirait de la viande. Ça a le goût de viande. Mais c'est pas de la viande. Double plus bon.
À 4 heures du matin, l'été, le sommeil d'amour dure encore. Sous les bosquets, l'aube évapore l'odeur du soir fêté. Mais là-bas, dans l'immense chantier, vers le soleil des Hespérides, en bras de chemise, les charpentiers déjà s'agitent. Dans leur désert de mousse tranquille, ils préparent les lambris précieux, où la richesse de la ville rira sous de faux cieux. Ah, pour ces ouvriers, charmants sujets d'un roi de Babylone, Vénus laisse un peu les amants dont l'âme est en couronne. Ô reine des bergers, porte aux travailleurs l'eau de vie, pour que leur force soit en paix, en attendant le bain dans la mer à midi.
C'est la voix d'André Breton lui-même qu'on vient d'entendre, qui lisait un poème de Rimbaud, Bonne pensée du matin, un texte que vous pourriez peut-être invoquer pour parler du talent du romancier Brice Faucon. Et puis juste avant, on a entendu l'antithèse du travail du poète, à savoir la novlangue du roman de George Orwell, 1984. Cette novlangue qui consiste à réduire au maximum toutes les nuances du langage. On a donc deux visions du langage qui nous permettent mais peut-être de rebondir sur cette dernière partie du texte de Bergson qui met en avant l'idée que les mots sont plastiques, ils peuvent à la fois quand même, le romancier peut tenter de les utiliser pour restituer sa singularité, son moi, la richesse de son moi et de ses états de conscience, mais néanmoins le problème du langage aussi c'est qu'il est partagé par tous.
Oui, alors il doit être partagé par tous, hein. De toute façon, seul, quelle langue parlerais-je ? Si tant est que je la parle, de quelle langue est-ce que je disposerai ? Bien évidemment, d'aucune. Hein. On se souvient de l'enfant sauvage. Hein. L'extrait est intéressant ici, justement, la destruction du langage. À quoi tient-elle ? On veut simplifier le langage. En fait, pour quel motif ? On est ici dans un scénario totalitaire. On veut réduire l'individu à sa dimension sociale ou politique, c'est-à-dire, si on reprend les termes du texte, à son extériorité. D'accord ? Il s'agit de vider l'individu, il s'agit de le faire tenir dans son extériorité, c'est-à-dire dans ce qu'il est pour l'État. D'accord ? C'est-à-dire dans ce qu'il n'est pas au fond. Donc, de quelle façon est-ce qu'on s'y prend ? On détruit le langage ici, ou on l'appauvrit de telle façon que l'individu ne soit pas tenté ne jouisse plus des forces et des pouvoirs du langage et ne soit plus appelé par la vie des mots et donc de façon à ce que son propre regard s'éteigne sur sa vie propre que peut lui révéler son langage, d'accord, puisqu'on parlait tout à l'heure de la vie qu'il y a dans le langage et dans les mots. Alors, effectivement, l'écrivain de talent et le poète, et puis je dirais Rimbaud, hein, en particulier dans ce type de texte, est à mille lieues de ça. Si on demandait à un penseur totalitaire, hein, ou à un esprit totalitaire, de quoi parle la bonne pensée du matin, probablement qu'il nous dirait ça ne parle de rien, ça ne dit rien, ça n'a aucun intérêt, il n'y a aucune dimension sociale, aucune dimension politique, ça ne concerne pas l'État, donc ce n'est rien. Effectivement, ici, ce qui est livré avec ce texte de Rimbaud, c'est un pur vécu. C'est un vécu du matin, c'est l'aube, c'est un pur ressenti. Et le pouvoir extraordinaire du texte, c'est l'évocation du monde. Il y a simplement un moment, le matin, l'aube, l'été, des moments qui ont dû être sans doute d'une grande pureté dans la vie de Rimbaud. Le monde est convoqué, le monde est évoqué, et je dirais que le monde est donné à éprouver, le monde est donné à ressentir. Les choses dont on nous parle ici sont des choses très simples. Il y a une présence mythique, hein, avec ses Hespérides, et puis avec Vénus. Et puis sinon, de quoi s'agit-il ? Des choses très simples. Le réveil après la nuit, à la belle étoile, la mer, les travailleurs du matin, etc. Tout est d'une très grande simplicité et se résorbe dans le bain, dans la mer à midi. C'est juste sublime. C'est la vie des mots. C'est juste ça. Alors effectivement, on est dans la pure intériorité. Il n'y a pas de démonstration, il n'y a pas de justification, il n'y a pas de théorie. On est simplement dans le vécu, mais la puissance d'évocation est, me semble-t-il, totale, aussi totale que peut l'être l'expérience de type océanique, par exemple, du bain dans la mer ou des choses comme ça.
Un étudiant qui, pour expliquer ce texte de Bergson, peut-être ferait part aussi de poésie, de textes qui lui tiennent à cœur, qui le touchent. Est-ce que il peut se permettre de faire ça dans sa copie, ou est-ce que on peut peut-être dire qu'il est un petit peu hors sujet et que il dépasse les limites du texte?
Non, je dirais que tout est question de proportion. Au contraire, il faut faire vivre le texte. C'est un conseil que je donne généralement aux élèves, hein, à tous les niveaux, que ce soit en dissertation ou en explication de texte. C'est de se pourvoir un exemple autant que faire se peut. Les idées ne sont jamais aussi vivantes que quand on peut les raccrocher à des exemples. La philosophie doit être concrète, doit être enracinée dans la vie. C'est d'ailleurs ce que pensait Bergson. Hein. C'est pour ça qu'il s'est forcé d'écrire de façon simple. Hein. Il voulait rendre son écriture à la portée de chacun, et je pense qu'il est lisible par tous, hormis certaines pages qui sont techniques, hein, et qui peuvent poser des difficultés, y compris aux gens qui lisent de la philosophie, mais sinon, dans l'ensemble, il est lisible par tous, c'était sa volonté. D'accord ? Et souvent, ces exemples sont très simples. Hein. Le morceau de sucre qu'ils font dans le verre, c'est d'une simplicité telle que parfois, il a pu même être moqué par certains. Bon. Peu importe, il faut du concret, il faut de la vie. On est dans une philosophie de la vie, on parle de choses simples. Donc oui, excusez-moi, je m'égare un peu.
Pour revenir
à votre question, les exemples sont bienvenus, et je dirais d'autant plus qu'ils sont vécus. Un élève qui prend un texte qui le touche personnellement et qui va faire ressentir au moyen de ce texte ce qu'il y a de vivant dans les mots, et qui va pouvoir peut-être même mettre en évidence certaines... je dirais le terme est maladroit, mais logique de la communication, ou la façon dont la transmission se fait, c'est un élève qui va donner de toute façon au correcteur la possibilité de sentir que lui-même a senti de quoi il s'agit avec le texte. Donc il faut surtout pas se priver d'exploiter ce matériau-là. Et je dirais même plus, si l'élève a la possibilité de rencontrer des émotions propres dans l'exploitation de ce type d'extrait, il va animer sa propre compréhension du texte philosophique, et l'émotion est porteuse dans la compréhension.
La pensée demeure incommensurable avec le langage, c'est la dernière phrase de ce texte, c'est une phrase magistrale, il faut le dire, vous n'allez pas me contredire, j'ai l'impression que vous aimez beaucoup Bergson. Oui. Et effectivement, tout à l'heure, vous avez parlé de l'idée d'image. C'est-à-dire que, par exemple, vous parliez du morceau de sucre qui fond dans un verre d'eau, donc c'est une image, un exemple que prend Bergson. Et finalement, juste avant, il dit « nous échouons à traduire entièrement ce que notre âme ressent ». Alors peut-être que pour conclure ce texte, l'idée serait peut-être de développer cette notion d'impossibilité à traduire entièrement notre pensée par les mots, justement parce que la pensée est incommensurable avec le langage, mais du coup peut-être que la pensée, ce serait une forme d'ouverture, la pensée peut-être traduite par des images.
Oui, effectivement, c'est dans
bien des... Et on rejoindrait d'ailleurs l'idée du poème qu'on
a
entendu.
Oui, et c'est dans bien des cas, le meilleur recours, c'est, pourrait-on dire, le recours supérieur pour parer à l'incommunicabilité. Il y a un passage absolument merveilleux dans La pensée et le mouvement, donc un texte plus tardif de Bergson, où il dit « il ne faut pas s'illusionner, dans certains cas, la pensée spéculative, ou je sais peut-être pas le mot spéculatif qu'il emploie, mais un mot qui a à peu près ce sens, la pensée spéculative échoue à exprimer les choses, alors que la métaphore, elle, y parvient. Et si on reste dans la méthode analytique, dans la pensée analytique, dans le langage analytique, on ne parvient pas. On croit que l'on parvient à aller au fin mot des choses, et on n'y parvient pas. Et si on revient ici à la théorie associationniste, on voit tout de suite de quoi il s'agit. Quand on va analyser l'esprit, on va le décomposer en quoi ? Par exemple, en termes de psychologie, bon, ce n'est pas pour critiquer la psychologie, mais bon, celle de son époque, en tout cas, l'associationnisme l'anachronisme auquel Bergson s'attaque. On va décomposer l'esprit comme des, disons, une composition de termes agissants, etc., comme dans l'extrait de tout à l'heure. Le poète qui compare, par exemple, l'esprit au vent, au souffle, à la lumière, pourquoi pas. Évidemment qu'il est dans l'image, mais il se fait comprendre. Il se fait comprendre. Et on ne va pas dire que cette image est fausse. D'accord ? Et éventuellement, avec ces termes-là, il va dire beaucoup plus sur l'esprit que celui qui va tâcher de le décomposer en, je sais pas, en éléments constitutifs qui traitent indépendamment les uns des autres de la cognition et d'autres choses. C'est-à-dire en décomposant l'esprit en propriété, si vous voulez, juxtaposé, on retrouve cette idée de juxtaposition. Celui-là, il va dire sans doute moins de vérité de l'esprit que celui qui va avoir recours aux images. Et pensez à la manière dont on s'adresse aux enfants. Un enfant qui vous demande qu'est-ce que c'est que la psychologie, par exemple, ou qu'est-ce que c'est que l'esprit. Avec les images, on va aller très profondément dans l'explication. Avec de l'analyse, on risque de perdre l'enfant et de perdre son intérêt, ce qui est pire, parce que du coup, si on désintéresse l'enfant, peut-être qu'il ne posera plus de questions.
Merci beaucoup, Brice Faucon. Vous pouvez, ce sera le mot de la conclusion, votre conclusion. Vous pouvez applaudir votre professeur.
Merci.
C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Je ne sais plus comment te dire.
Rien que des mots.
Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire.
Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau.
Tu es d'hier et de demain.
Bien trop beau.
De toujours, ma seule vérité.
Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie.
Tu es comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses.
Caramel, bonbons et chocolat.
Par moments, je ne te comprends pas.
Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur.
Comme la première fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Comme j'aimerais que tu me comprennes.
Rien que des mots.
Que tu m'écoutes au moins une fois.
C'est donc la fin pour aujourd'hui des Nouveaux Chemins, mais on se retrouve demain pour la suite de notre série spéciale Bac blanc de philosophie, toujours au lycée Pasteur d'Avignon, où nous avons donc posé nos micros. Et demain, mercredi, ce sera une dissertation. Doit-on être sceptique parce que la vérité change avec le temps? Une dissertation que viendra décrypter pour nous et pour vous la professeure Chloé Porte. Et si d'ici demain, vous souhaitez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture, à la page des Nouveaux Chemins. Vous y trouverez toutes les références bibliographiques et musicales du jour. Et surtout, vous pourrez l'écouter en ligne et la télécharger, la podcaster pour l'écouter quand vous voulez. Rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter des Nouveaux Chemins où toute l'équipe met en ligne l'émission du jour. Et si d'ici demain vous souhaitez prolonger la préparation du bac, eh bien rendez-vous aussi avec Marie Richeux pour ses nouvelles vagues à 14h, à 16h pour le bac blanc des sciences et demain à 9h avec Emmanuel Laurentin pour le bac blanc d'histoire. Mais pour l'heure, il est 10h54, vous écoutez France Culture, l'heure de retrouver Christophe Onodibio pour le temps des libraires, suivi à 11h de Culture Monde par Florian Delorme.